Alors vous allez prendre déjà le livre de Vaïkra, on va l'ouvrir à la paracha de Acharemot. Cette semaine nous avons deux parachiots. Alors j'espère que j'aurai suffisamment de temps pour étudier un premier thème au début de la première paracha et aussi un au début de la deuxième paracha. Mais quoi qu'il en soit, comme je sais que vous avez préparé vos shiur les baït et que vous avez des questions à me poser, je vous écoute. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit la dernière fois? Alors, si vous n'avez pas posé la première question, posez tout de suite la deuxième et on commence. Personne n'a lu la Sidra. Non, écoutez, je suis très sérieux. Ça fait déjà une dizaine de fois que je vous dis la même chose. Vous venez pour étudier et pas pour écouter une conférence. C'est pas la même chose. Quand il y a une conférence, une conférence. Si c'est une étude, c'est une étude. Alors, si vous venez pour étudier, ayez au moins le minimum de, je sais pas quoi, de lire au moins la paracha avant. Et si vous lisez la paracha avant, c'est pas possible qu'on n'ait pas de questions. Ou alors, ça me fait honte de moi à votre âge, j'étais plein de questions. Alors, je vous écoute. Et surtout, n'inventez pas des questions théoriques. J'entends pas.
Pourquoi toutes les prescriptions qui concernent Aaron après les portes et Abedot dans le Midrash sont données à Moshe pour qu'il dise Aaron?
Ça, nous avons déjà étudié une fois. C'est une question qui ne fait pas partie de la paracha. Vous voulez ouvrir la porte que ça aère un peu? Bon, si vous n'avez pas de questions, vous allez. Oui. On va voir. On va étudier ça. Tu n'as pas le verset en tête? Tu vas lire le verset.
On rapporte au commentaire de Rachid qui dit qu'en fait, c'est uniquement leur
Neshama. Il n'a pas dit Neshama, on va voir. Qu'est-ce que tu veux dire?
Au centre de la paracha, Hamishi, alors que la
paracha. Quelle paracha? Acharemot.
En gros, quand on s'occupe du service de Yom Kippour, il y a subitement des lois morales qui sont très personnelles, qui sont introduites au milieu de la paracha.
Bon, je pense qu'on va pouvoir arriver là. Et vous avez compris la question? Surtout pour ceux qui suivent la prière du jour de Kippour, c'est ce qu'on lit à Mincha de Kippour. Toutes les interdictions des unions qu'on appelle incestueuses, mais selon les critères de la Torah. C'est pas si simple que ça. Et je pense qu'on va y arriver. Bon, alors vous prenez le texte. Au début de la paracha de Acharemot, c'est donc le chapitre 21, il me semble, c'est ça? Non. Pardon, c'est le chapitre 16. Alors prenez le début du chapitre 16 et je vais lire. Asseyez-vous parce que ça me fatigue de vous voir debout. Il n'y a pas de chaise?
Non.
C'est interdit d'enseigner avec des élèves debout. Vous connaissez la Mishnah de Pirkei Avot? Ve'aramidu talmidim arve? Ça implique qu'ils étaient assis. Bon, on n'a pas le temps d'étudier ça, mais je pense que c'est clair. Alors, je lis les premiers versets. Vaidaber Hashem el Moshe, Acharemot, Shene Bene Aaron. Et Dieu parla à Moïse après la mort des deux fils de Aaron. Alors, déjà, nous avons une petite indication sur une des questions qui a été posée. Il est normal que la révélation soit imputé directement à Moïse, puisque ça concerne un problème qui est arrivé dans la famille de Aaron. Ça va nous renvoyer à un récit qui se trouve dans la paracha de Shemini. Je vous donnerai tout à l'heure la référence, vous noterez la référence pour le voir par vous-même. Mais je dirai très rapidement de quoi il s'agit. C'est le fait que au moment du sacrifice d'intronisation, d'inauguration du Mishkan, on peut dire les deux en français, mais enfin, je n'entrerai pas dans les questions de vocabulaire. Il y a eu une divergence d'interprétation du rite du sacrifice qui devait être fait entre Moïse et Aaron. Et c'est pourquoi la paracha de Shemini nous raconte que, au moment de l'inauguration du tabernacle, il y a eu, je ne sais pas comment dire, une catastrophe. Alors que, là je vous cite en les résumant et sans les citer énormément de Midrashim, alors que c'était le temps où après la sortie d'Égypte, on pouvait entrer dans l'ère messianique, les mots ayant leur sens simple, le monde, nous dit le Midrash, était en train de se transfigurer, et c'est indiqué par le fait que la paracha est mise à l'indice de et il arriva le huitième jour. Je ne veux pas étudier ça en détail, mais je rappelle très brièvement pour ceux qui l'ont déjà étudié. Il y a le récit des six jours du commencement. Ensuite, toute l'histoire humaine est logée dans un septième jour, qui est le Shabbat du Créateur. À la fin de ce septième jour, le Shabbat du Créateur, qui est la fin de l'histoire de Adam, apparaît le Ben Adam, qui est annoncé par Eliyahu HaNavi. D'ailleurs, ce qu'on commémore à chaque semaine, le samedi soir. C'est Eliyahu HaNavi qui vient annoncer le huitième jour. Et puis, tant que ce n'est pas encore le grand huitième jour, on est repris par la spirale du temps et on rentre dans une semaine avec sept jours. Jusqu'au jour où la semaine avec sept jours débouchera sur le grand huitième jour. Pour ceux pour qui c'est obscur ce que je viens de dire, oubliez. Je le rappelle pour ceux qui ont déjà étudié ces choses-là, qu'ils puissent le mettre à leur place. Parce que si j'explique plus, ça va obscurcir plus. Alors simplement, je vous rappelle cela. Et voilà ce que dit le Midrash à ce sujet. Il s'agissait du huitième jour des Milouim, c'est-à-dire du stage de préparation des Kohanim qui s'initiait au premier sacrifice d'intronisation du tabernacle, d'intronisation du Mishkan. Et donc, essayez d'avoir vous-même les versets en tête. Verasu le Migdash Beshachati Betocham, c'est l'annonce du temps messianique. Et le Midrash dit, les malades commençaient à guérir, les paralytiques commençaient à marcher, le monde se transfigurait, et puis arrive une catastrophe, une erreur d'interprétation apparemment, ça, on ne va pas étudier ça, mais c'est pour vous signaler à quel niveau de gravité les choses se passent, une erreur d'interprétation. Bon, je n'ai pas dit une erreur tout à l'heure, j'ai dit une divergence, hein. C'était pas une erreur. Enfin, une divergence d'interprétation de la manière dont le sacrifice devait être opéré, et selon Moïse, il fallait le brûler, ce sacrifice. Le manger, alors que Aaron, c'est Aaron qui l'a fait brûler. Aaron l'avait fait brûler. Et là, il arrive. Il y a eu, si vous voulez, un arrêt de ce qui s'amorçait. Vaïhi, Bayom Hashemini. Je le dirai très rapidement quand même. Un petit ridouche, si vous voulez. En général, comme vous le savez, le terme de Vaïhi, et il arrive à que, indique un malheur. En Vaïhi, et la Lachon Tzahar. Et vous voyez la collusion de concepts qu'il y a dans l'expression « Vayi, Bayom HaShemini ». Bayom HaShemini, c'est l'annonce de ce qu'on attend depuis la création du monde. Un monde où Dieu et l'homme pourraient résider ensemble. Ce monde qui est préfiguré dans le Mishkan, dans le Beit HaMikdash. Et donc on attend un Ve'aya. Et il arrivera que « En Ve'aya, et la Lashon Simcha ». Mais voilà, l'expression dit « Vayi bayom hashemini ». C'est une expression très, très dure, pas dure, c'est pas le mot. N'approuvez pas, et ne, parce que ça me fait penser à autre chose chaque fois. Quand je parle, n'intervenez pas, même pas en hochant la tête. Je dois vous apparaître un peu trop méticuleux, mais je vous garantis que c'est sérieux. Pour moi, ça me gêne. C'est clair ? Donc, eh bien, qu'est-ce que je disais ? Vous voyez, je pensais à autre chose. Cette expression de « Vayi bayom hashemini » est une expression qu'il faut étudier en soi. On attend le jour de gloire, si j'ose dire, et voilà qu'arrive le jour de la catastrophe. Et il y a toute une série de catastrophes de ce genre, en particulier dans un des sacrifices importants de l'intronisation du Mishkan, qui préfigure le Beit HaMikdash. Les deux fils de Aaron ont mal... qui étaient donc des prêtres assermentés, si j'ose dire, en service, ont mal réalisé leur service. Ils ont, oui, vous m'avez fait penser à autre chose. Ils ont, comment on dit en français, ça m'échappe. Apporté, c'est un peu grossi. Non, je veux dire, ils ont utilisé un feu qui n'était pas n'importe quel feu, c'était un feu pris de l'autel, mais alors qu'il fallait utiliser le feu tombé du ciel pour l'inauguration du sacrifice. Nous allons lire un midrash à ce sujet. Mais ici, dans le rappel de cet événement qu'on vient de lire les premiers mots de la paracha, qui introduisent le cérémonial de l'expiation du jour de Kippour. Et c'est, vous suivez clairement, mais que j'ai beaucoup résumé, ça va ? La Torah ne dit pas quelle a été la cause immédiate de la mort des enfants d'Aaron lorsqu'ils ont apporté sur l'autel, je voulais éviter ce mot de apporter, mais un feu étranger, Esh Zara. Alors, le feu du ciel est tombé et les a brûlés. Là, quand nous arriverons au verset, je prendrai votre question. Est-ce que leur corps a été brûlé ou simplement leur nefesh? Il ne s'agit pas de neshama, on va vérifier. Vérifie quel est le mot qu'on emploie.
Nishmata.
Bon, on va vérifier. Mais dans la source de Rashi, il doit y avoir nefesh. Mais on pourra utiliser la neshama. Est-ce que Rashi dit misrefa? Bon, je vais voir tout à l'heure. Chez le Nisrefo, c'est un exemple. Alors, il faudra vérifier. D'ailleurs, vous me rappellerez que je vérifie dans les sources de Rashi comment est la Gersa sur laquelle il se base. Alors, je reprends ce que je disais. Ce n'est pas indiqué ce que je viens de rappeler et que dans la paracha de Shemini, la Torah dit de façon très explicite, je vais vous lire tout de suite les versets que vous donnez en référence, simplement faire allusion que cette révélation du cérémonial le jour de Kippour qui est transmise à Moïse pour qu'il enseigne à Aaron fait suite immédiatement à ce rappel de l'événement catastrophique de la mort des deux fils d'Aaron. Et comme on dit notre verset, reprenez le texte que je vous ai indiqué au début du chapitre 16. Comment dit ce verset? Quel est le mot que j'attends? Eh bien, lisez le verset. Lisez le verset. Acharemot shene ben Aaron. La suite. Bekor batam. Lifne Hashem bayamutu. Lorsqu'ils se sont approchés devant Dieu et qu'ils sont morts. Vous voyez, le texte ne fait pas allusion aux circonstances qui ont été la cause de cette mort, ni d'ailleurs à la manière de la mort elle-même. Alors nous allons d'abord étudier cette première difficulté, et puis nous allons voir tout à l'heure, par rapport à des midrashim que je vais vous lire en détail, ce que la tradition dit de la nature de ce que serait, mettez entre guillemets, la faute des enfants d'Aaron. Il y a plusieurs enseignements différents, mais d'abord je voulais vous citer le pshat. Le pshat, c'est-à-dire ce que dit le récit de l'événement dans la paracha de Shemini. Alors ouvrez votre livre de Vaïkra au chapitre 10, dans la paracha de Shemini. Vous y êtes, chapitre 10. Alors je lis deux versets. Vaïkru bnei Aaron. Et les gens, tu diras
page 38.
Ah. Bon. Dès que j'entends plus les pages tournées, c'est que vous avez trouvé la référence. Ça y est, vous y êtes ? Chapitre 10 au début. Vaïkru bnei Aaron et les enfants d'Aaron. Il s'agit, on va le savoir tout de suite, de Nadab et Abihu. Je ne sais pas si c'est le ventilateur. Mais les intempéries me poursuivent. Voilà, arrêtez-le. Voilà, arrêtez-le plus loin. Les corps vahon, moïchbou. Non, là j'étouffe. Mettez-le plus loin. Ma
Un peu
là, diminuer. Oui, diminuer. Non, diminuer.
Sur un, voire deux.
Non, ça va, c'est pas grave, ne perdez pas. Alors, il s'agit de Nadab et Abihu. Et nous allons voir que chaque fois que la Torah fait allusion, mais pas dans notre paracha, à la mort de Nadab et Abihu, le même problème va se poser. Et ils sont morts pourquoi ? Pourquoi, de telle sorte qu'on comprenne, pourquoi la Torah a mis en évidence cet événement. comme on rencontre très souvent ce problème, c'est que le récit de la Torah, ce n'est pas des anecdotes, ce n'est pas des péripéties inutiles. Ce sont des choses importantes. Et pourquoi la Torah fait tellement, quatre fois dans le texte de la Torah, fait allusion à la mort des enfants d'Aaron, c'est-à-dire Nadab et Abihu, et nous verrons un texte de la Parasha Pinchas qui met ça en évidence. Quel type de faute il s'agit? Pour le moment, nous ne savons que formellement la faute éventuelle des prêtres quand ils font une faute. On verra de quoi il s'agit. Mais d'abord, je lis le texte. Vaikru ben Aaron Nadab et Abihu, et les enfants d'Aaron Nadab et Abihu prirent Ish Martato, chacun son encensoir. Retenez bien tous les détails, on va les utiliser dans le Midrash tout à l'heure. Vaïtenu Bahem Esh. Et ils y mirent dans ces encensoirs du feu. Et on apprend d'autre part que ce feu, ils l'ont pas pris n'importe où. Ils l'ont pris Ben Akiraïm, c'est-à-dire dans les fourneaux qui. Kiraïm, je traduis Kiraïm par fourneau, mais c'est pas fourneau. Traduisez-moi Kiraïm. Alors les ménagères, là. Hein? Autant vous n'avez pas des réchauds. Bon, les foyers qui alimentaient le brûlement des sacrifices. Vaya simu aleaktoret, et ils ont placé sur ce feu de l'encens, vaya kribu lifne hachem, ils l'ont approché, cet encens, voyez la racine de korban, devant Dieu, et ils ont approché devant Dieu, eshzara, un feu étranger. Hacher lotziva otam, qui ne leur avait pas été commandé. Oui, la faute, premièrement. Pourquoi c'est interdit d'apporter un feu étranger? Pas tellement parce que le feu est étranger. On va être étranger. On apprend d'autre part. Comme je vous l'ai dit, c'était un feu pris dans les ustensiles du temple. Okay? Mais le texte dit très précisément « Asher lo tziva otam » qu'on ne leur avait pas prescrit. Très souvent, nous voyons que la définition de ce qui est interdit, alors qu'on se demandait pourquoi c'est interdit, c'est parce que la Torah ne l'a pas prescrit. Et on ne fait pas quelque chose que la Torah n'a pas prescrit. Il y a des raisons pour lesquelles elle ne prescrit pas de cette manière. Elle prescrit d'une autre manière. Le grand exemple a été étudié par, je vous laisse une parenthèse, mais obligé, par Judas Lévi dans le Kuzari, à propos de la faute du veau d'or. Et le Kuzari, sans le citer expressément, fait allusion à un enseignement du Talmud et du Midrash, selon lequel, au fond, cette génération du désert, je ne rentre pas dans les péripéties, qui a initié la faute, qui l'a laissé faire, voulait avoir un symbole représentant la présence de Dieu dans le monde. Et alors, Judas Lévi dit très clairement, leur faute, c'est de s'être choisi un symbole que la Torah n'a pas demandé. Voilà ce que je voudrais dire, mais dites-moi si c'est suffisamment clair, parce que c'est un sujet important, et je vais vraiment le résumer considérablement. Finalement, ce veau d'or, là, c'était une représentation matérielle du signe du zodiaque dans lequel on est entré au moment de la sortie d'Égypte. On est sorti d'Égypte avec exactement la sortie du point vernal, comme disent les spécialistes, d'un certain signe du zodiaque, et rentré dans les 40 ans qui ont suivi dans un autre signe du zodiaque. Et c'était l'habitude dans la religiosité du temps de considérer que les signes du zodiaque représentent des médiations à travers lesquelles le Créateur dirige son monde. Les religions astrobiologiques, les religions païennes en font des divinités, mais si ça nous est interdit, c'est que ça a une efficacité. Bon, je ne veux pas rentrer dans le problème de l'astrologie, mais ce n'est pas simple de nier l'astrologie. Si la Torah nous interdit l'astrologie, c'est qu'elle considère que c'est quelque chose. Sinon, elle ne le nierait pas. C'est la manière dont les tenants de l'astrologie se soumettent au destin de fatalité des conditionnements que ces signes de zodiaque représentent, qui est interdite par la Torah. Mais ça ne veut pas dire que ces forces n'existent pas. C'est comme si, vous connaissez ce midrash, où on demande, mais pourquoi Dieu n'annule pas le soleil? Ça supprimerait les adorateurs du soleil. Et le midrash répond, c'est pas à cause de ch'touyot, de gens qui adorent le soleil, qu'on va priver le monde du soleil. Mais le soleil, c'est sérieux, le soleil. C'est pas rien, le soleil. C'est l'adoration du soleil qui est ch'tout. Vous avez compris le coup. Bon, c'est comme ça pour toutes les forces à travers lesquelles Dieu gère son monde. Je referme la parenthèse. Et donc, Judas Lévi dit que leur intention, c'était une intention de... Vous savez, le païen, c'est l'autre croyant. Il faut pas oublier ça. c'est interdit d'être païen. Mais être païen, c'est être croyant d'une autre manière que celle qu'il faut. Vous avez compris ? D'ailleurs, les modernes ne sont pas païens parce qu'ils ne sont pas capables d'être païens. Ils font semblant. Ceux qui sauraient étudier, on n'a pas de temps à perdre, mais ceux qui sauraient étudier ce qu'était le paganisme de l'Antiquité, eh bien, sauraient que ce n'était pas des billevesées. C'est pas pour rien que ces civilisations-là ont été des grandes civilisations, et à ce niveau-là, leur religion aussi. Mais, je referme la parenthèse, parce que je ne vais pas entrer là-dedans, ça me prendrait trop de temps. Non, arrêtez le ventilateur, pourquoi tu tousses ? Et alors le sirin ?
Arrêtez de fumer.
Il y a l'odeur de la cigarette. Hein ? J'ai pas entendu. Ça fait rien. Ça passe. Qu'est-ce que je disais ? Oui, j'ai pensé à l'encens, la fumée.
De la fumée,
du vaudor. Oui. À propos du vaudor, c'est finalement une espèce d'instance médiatrice de la volonté de Dieu dans la gestion de son monde. Et oui, vraiment la faute, c'est que la Torah n'a pas demandé ce genre de symbole. Il n'est pas pour Israël, ce genre de symbole. Et d'ailleurs, on pourrait se demander, alors pourquoi dans les parochettes des synagogues, il y a souvent dessiné des signes du zodiaque. Je crois que les rabbins qui le tolèrent parce qu'ils savent que les juifs n'y comprennent rien. Sinon, ils ne tolèrent pas. Non, c'est pas une blague. Et en fait, ce qu'on veut représenter sans le comprendre, c'est la correspondance qu'il y a entre les signes du zodiaque et les tribus d'Israël. Bon. Mais si vous approfondissez la question, un des commentateurs de Judas Lévi a posé la question, alors quel est le symbole que, mettez symbole entre guillemets, c'est l'ensemble de signes que la Torah permettrait. C'est uniquement les lettres de l'alphabet hébreu. Et vous remarquerez que dans les synagogues très strictes, il n'y a que Aleph, Bet. Ici, il y a les premiers mots, mais les premiers mots des 10 commandements, mais il y a les 10 premières lettres de l'alphabet qui représentent les livres. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Vous avez déjà remarqué ça dans les synagogues. Parce que ça se base sur l'enseignement du Midrash, que c'est avec les lettres de l'alphabet hébraïque que Dieu a créé le monde. Alors ça, c'est des symboles sérieux. C'est-à-dire les éléments de l'agencement du monde finalement sont représentés par les lettres de l'alphabet, et chaque réalité dans le monde est à la manière des mots, à partir des lettres, une combinaison des éléments qui sont... Ne m'interrompez pas quand je parle. Quand j'ai fini, vous pouvez poser une question. Qu'est-ce que je disais ? Des éléments qui sont les éléments de la constitution du monde. Je crois que ceux qui ont étudié la chimie comprendront très facilement ce que je viens de dire là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je me rappelle ça de mon programme, la notion de valence en chimie, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'éléments de base, dans telle combinaison c'est tel corps, telle substance, dans telle autre combinaison c'est tel... Alors Vayitzer, c'est Vayomer, c'est par sa parole que Dieu a créé le monde, la parole organise les éléments du langage qui sont les lettres. Voilà, très schématique, c'est clair ? Donc, alors, ce que dit Judas Lévi, c'est que il s'agissait d'un symbole religieux que la Torah n'a pas demandé, alors il est interdit. En tout cas, il est interdit pour Israël. C'est ça que Judas Lévi veut mettre en avant. Voilà, c'est un exemple massif de ce qu'on nous dit là, ici. Asher lo tziva otam. Tous les commentateurs ont mis en évidence le sens spirituel de ce geste. C'est, j'ai employé exprès un vocabulaire un peu forcé, un feu d'enthousiasme religieux supplémentaire, mais que la Torah n'a pas demandé. Ça peut être dévastateur. Vous avez compris l'analogie de langage, okay ? Et effectivement, ensuite nous allons rentrer un peu plus dans le détail des différentes thèses du Midrash, en quoi consiste cette faute. Mais d'abord, de manière formelle, on apprend directement de la Torah au moment du rite de l'encens. Ils se sont servis d'un feu que la Torah n'a pas demandé. C'est-à-dire, amener son propre enthousiasme à ce que la Torah demande dans le culte, ça peut être dévastateur. Moi, je pourrais disserter pendant des heures là-dessus. Si ça vous intéresse, je peux le faire un peu. Mais en tout cas, je me souviens d'un de mes maîtres qui avait donné la comparaison suivante. La Torah réglemente de manière très précise tous les gestes du grand prêtre pour le sacrifice. Mais si jamais le grand prêtre, dans son enthousiasme religieux, en plus va embellir le rite en mettant des gants blancs, on le met à mort. Parce que, pour ceux qui savent, sans entrer même dans le contenu, qu'il s'agit d'un rituel qui signifie très exactement les structures du monde, introduire n'importe quoi là-dedans, c'est la destruction du monde, au niveau spirituel. Est-ce que c'est suffisamment clair ? Alors, c'est pourquoi, pour ceux qui étudient plus profondément dans le Talmud, vous verrez que le souci du Talmud, dans toutes les misvotes qui concernent le culte, c'est de savoir exactement ce qu'il faut faire. Et sans chumra ni kula, sans aggravation de la loi, dans le sens de l'intensification de la piété, soit allègement de la loi, dans le sens de l'intensification de la piété aussi. L'ifni mishurat adin ou l'ahmir badin. Et il faut faire exactement din et mettre la mito. Parce que tout ce qui concerne le culte a une signification. Si on modifie quoi que ce soit, c'est tout faux. Et je vous donnerai un exemple que vous connaissez, que vous êtes familier. Même et surtout, si on ne comprend pas quelle est cette signification, à plus forte raison, il faut se méfier. Vous savez très bien qu'un Sefer Torah, il n'y a pas plus. Je ne veux pas dire sacré, ça n'existe pas chez nous, les choses sacrées. En français, ça veut dire païen. C'est païen, ce mot-là. Mais le Sefer Torah, c'est une des réalités les plus respectables dans la vie juive et respectée. Eh bien, s'il y a une lettre qui manque, une lettre de trop, une lettre effacée, on ne peut plus lire dedans. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est un peu dans ce sens-là. Et alors, je lis le verset 2, toujours dans la référence du chapitre 10 de Shmini. Vatetse ish mini esh sticha. Excusez-moi du lapsus, mais ça me renvoie à notre texte. Vatetse esh mini fne haché, mais un feu sorti de devant Dieu, vatochalotam, et les dévora, vayamutu, et moururent, lifne haché, devant Dieu. C'est là que Rachid dit ce que tu as cité ? Non, c'est pas dans ce verset. Tu me diras après. Bon, de toute façon, pour approcher un peu ta question, la mort, la mita, il faut bien comprendre que la mita, c'est l'arrêt de la vie biologique. Il y a d'autres termes pour dire cesser de vivre. Mais mavet, c'est l'arrêt de la vie biologique et c'est l'instant où l'âme se sépare du corps. Et voilà donc la première référence que je voulais citer. Alors reprenons notre texte de Acharemot. Je relis le verset. Vaïdaber Hashem et Moshe, et Dieu parla à Moïse, Acharemot, après la mort, Shne ben Aaron, les deux fils de Aaron, Bekorbatam Nifne Hashem Vayamutu, lorsqu'ils s'approchèrent devant Dieu et ils moururent. Alors, vous voyez, c'est un autre terme qui est employé. C'est une autre nuance. C'est plus qu'une nuance. Il ne s'agit pas, ici, on le sait pourtant du récit de la Parashat Shemini, qu'ils ont mis sur l'encens un feu étranger, et ils en ont fait le sacrifice d'approchement, mais qu'ils se sont approchés, eux, devant Dieu, et qu'ils sont morts. Alors, je vais vous lire un certain nombre de midrashim qui vont approfondir un peu et entrer dans le détail, si vous voulez chercher un autre terme, enfin préciser. Quel est le risque de tentation de la faute des prêtres? Je veux dire d'abord l'ensemble des différentes thèses, sans vous donner de référence, et ensuite on va lire ce que le Midrash dit sur notre verset. Bon, alors la première réponse, c'est qu'ils ont apporté un feu étranger. La deuxième réponse qui est donnée, et je vais vous donner la référence, elle se trouve dans notre parasha de Acharemot, c'est qu'ils avaient bu du vin avant le service divin. J'ai pas fait esprit. Il y a toute une législation à ce sujet. Il est interdit au Kohen de boire du vin avant d'être en service. En service, pas dire en service religieux, c'est pas joli, mais vous avez compris. Avoda. La discussion de la halakha est que c'est interdit directement. Mais s'il y a interruption, et donc, Itkarera Darto, je vais vraiment dire que ça. Sa lucidité est revenue, ou s'il y a de l'eau dans le vin, c'est permis. Bon, ça c'est des détails de halakha, mais regardez le principe. Alors, vous allez la voir. Attendez, j'ai marqué la référence, mais le machin s'est envolé. Je vais le trouver tout de suite. Alors, on s'est dans Cheminée. C'est juste après dans ce mini. Alors nous étions au chapitre 10. Mais voilà. Dans le chapitre 10, vous allez prendre le verset 8. Dans le chapitre 10 de Vaïkra. Chapitre 10 de Vaïkra, verset 8. Là où on était tout à l'heure. C'est dit juste après le récit de la mort des enfants d'Aaron. Dans ce premier récit, la raison directe, c'est Esh Zara. C'est clair ? Mais comme tout de suite après, il y a la prescription suivante, c'est relié par le Talmud. Vaïdaber Hachem et Aaron les morts, et Dieu parla à Aaron en disant Yaïn ve Shechar, Altesht, du vin et de l'alcool. Shechar, comment vous traduisez ? Bon, vous savez que Shechar, c'est de l'alcool. Hein ? C'est le vin distillé. Il n'y a pas un mot en français ? Non ? Le schnapps ? Vous n'avez pas du français ? Oui, c'est ça. Tu ne boiras pas, Ata ou Banechaïtar, toi et tes fils avec toi, mais Boachem et Noël, lorsque vous entrerez dans la tente, dans le tabernacle. Étant donné la proximité de ces deux textes, il y a donc une tradition qui enseigne, ils étaient dans l'enivrement. Et là encore, la signification est très claire. Il y a l'enthousiasme, il y a l'enivrement, tout cela est interdit dans la conduite religieuse selon la Torah. Je voudrais vous rattacher ça à un thème très important qui est enseigné dans la différence de la capacité de prophétie des prophètes d'Israël et des prophètes des nations. Et les sources ont donné pour modèle la différence entre Moïse et Bilam. Le prophète d'Israël prophétise dans la lucidité absolue, alors que le prophète des nations, je cherche, aidez-moi, chez les Grecs on appelait ça la pitié, je crois, monsieur Kazé, oui. On entrait en transe. C'est dans les transes qu'on prophétisait. Et c'est une différence de nature. Et alors on s'est habitué à croire que plus on est en transe, et plus on est prophète, alors que c'est le contraire. C'est impur. C'est dans la lucidité absolue que le prophète d'Israël prophétise. Debout. Alors, c'est clair la différence. Tenez bien, je me souviens de mes cours de culture grecque. Pour le professeur, ça allait de soi. Plus on est agité, et plus on est inspiré. C'est l'inverse, c'est une mentalité inverse. Okay. D'ailleurs, il faut se méfier ça en milieu juif. Je ne vous donne aucune analogie, parce que je n'en ai pas en tête. Mais, en tout cas, pour revenir au sujet, on a cité le verset qui définit Bilam. Le verset dit ceci, « Nofel uglu enaim ». Il tombe à terre et ses yeux s'ouvrent. Nofel uglu enaim. Et je voudrais vous citer ce que dit le Midrash et une interprétation du Midrash qu'avait donné une fois Emmanuel Levinas et qui m'a beaucoup frappé. C'est que le Midrash nous dit que Bilam était incirconcis. Alors il avait honte de son incirconcision, il se jetait à plat ventre pour qu'elle soit cachée. Et alors là seulement, il pouvait recevoir la prophétie. Alors Lévinas, c'est clair l'idée, ça va loin. Enfin, Lévinas avait la formule suivante qui est très frappante. Il dit, et à mon sens, je ne sais plus si c'est lui qui l'a dit ou je l'ai pensé quand il l'a dit. Enfin, ça doit être moi, parce que vous allez comprendre pourquoi. À mon sens, ça définit le philosophe par rapport au prophète. Alors comme Lévinas est philosophe, je ne voulais pas lui imputer ça, mais je ne me rappelle plus. On garde la formule. Il dit, le prophète des nations peut voir, mais il ne peut pas être vu. Alors que le prophète d'Israël peut voir et être vu. Vous voyez la grande différence. Je me rappelle d'avoir écouté, quand j'étais en Sorbonne, élève, un cours d'un très grand professeur, oh, son nom m'échappe, c'est dommage, qui s'appelait le professeur... Il y a des anciens, le professeur de la philosophie des valeurs, c'était, il faudrait que son nom me revienne, il mérite. Hein? Bachelard? Non, c'est pas Bachelard. La philosophie des valeurs, c'était...
Paulin?
Non, Paulin, c'est autre chose. Ça me reviendra, mais c'est pas Bachelard. Bachelard, c'est l'imaginaire, la mer, le feu, le vent, les nuages. Bachelard, c'est un très très grand poète. Puisque philosophe aussi d'ailleurs. Le Seine. Ça vous dit quelque chose? Le Seine. C'était lui. Un grand bonhomme. Et alors, il nous disait, mais vraiment avec une sincérité absolue. Alors, il nous disait, et je crois que c'est peut-être lui qui nous avait dit cette plaisanterie, je dirais après. Il nous disait, le philosophe, il ne faut pas lui demander de vivre d'après ses valeurs. Il décrit les valeurs, ça vise autre chose. Voilà. C'est vrai, c'est ça la grande différence avec le prophète. Alors, je ne sais plus qui, peut-être lui, peut-être d'autres d'ailleurs, il disait, vous savez, le philosophe c'est un poteau, il indique la direction à prendre, mais il ne marche pas. Et il y a un peu de ça. Alors, pour revenir au sujet, et ça se rattache à ça, le thème général étant la différence entre le prophète des nations et le prophète d'Israël. Et rappelez-moi pourquoi j'ai cité ce thème, de quoi on parlait avant. Hein? Non, ça c'est dans le thème, la différence entre Bilam et Moïse. Inch'Allah, exact. L'agitation. Vous savez, je vous donne un exemple. Je ne vais faire la peine à personne, mais la halakha est comme ça. Je vous cite la halakha. Il y a certains rites, certains rituels, certains chitot. Le mot m'échappe en français.
Système.
Hein?
Système.
Oui, enfin, certaines synagogues où c'est interdit de se balancer pendant la prière. Alors qu'il y en a d'autres, au contraire, on s'agite, mais alors au maximum. Et alors, pourquoi c'est interdit? Alors, je vais raconter une anecdote chez les chassidim. Je l'ai raconté une fois. Un grand maître chassid avait l'habitude de prier contre le mur. Vous savez, les hommes très pieux prient devant un mur. Rien entre eux et le mur. C'est pour ça qu'on est au mur, au pied du mur. Et une fois, il est arrivé en retard, c'était l'heure de Mincha. Et donc, au moment où il entrait dans le Beit HaMidrash, la tefila avait commencé, il s'est arrêté, et il a vu ses élèves prier, et il les a vus gesticuler. Il était effaré. À la fin, il a attendu la fin de la prière, et il a dit, qu'est-ce que vous faites? Alors, il y en a un qui a eu le courage de dire, mais on fait comme toi. Alors, il dit, oui, mais moi, je sais ce que je fais. Vous le faites comme ça. Bon, le balancement dans la prière, c'est toute une science mystique. Et si on n'en connaît pas les règles, il faut se méfier. Parce que sinon, ce n'est que de l'agitation névrotique de type excitation sexuelle. Et alors, il faut se méfier, surtout chez les jeunes gens. Je ne sais pas si c'est clair. J'ai déjà l'âge de vous parler de mes petits-enfants. Mais je me rappelle d'un de mes professeurs qui disait, lui c'est un professeur de lettres, il disait, si quelqu'un écrit des vers à 17 ans, c'est qu'il a 17 ans. Si quelqu'un écrit des vers à 70 ans, c'est que peut-être il est poète. Et alors, c'est la même chose pour la mystique. Si quelqu'un est mystique à 17 ans, c'est qu'il a 17 ans. Et si quelqu'un est mystique à 70 ans, c'est que peut-être qu'il est mystique. Alors il faut se méfier de ces manifestations de piété démonstratives qui sont parfois suspectes. Je ne veux pas être trop dur, parce que des fois, on est pris d'enthousiasme. Mais je referme la parenthèse. C'est clair ce sujet-là? Alors, je reviens donc au sujet. Nous avons donc déjà deux thèses, deux raisons. La première, c'est un feu étranger que la Torah n'a pas demandé. Bon. La deuxième, et ça c'est l'enthousiasme exagéré, et on n'a aucune idée, ça je ne peux pas vous parler comme éducateur surtout dans le monde des étudiants, mais de la jeunesse en général, les dévastations que peuvent faire d'un enthousiasme mal géré, hein, et mal digéré. Et puis, le deuxième, c'est l'énivrement. Et l'énivrement, on commence par les toxiques, mais il y a un énivrement sui generis. Oui, il faut de la sobriété dans le rite. Cherche un mot, c'est peut-être le mot exact d'ailleurs, parce qu'avant de dire le kiddush, on dit sobre marazan. Soyez sobre, on va parler le kiddush. Il y a une troisième thèse, et on va voir comment le Midrash l'explique très en détail. Qu'est-ce qu'il y avait profondément là-dedans? C'est, alors là, c'est une très grave faute chez les Talmidei Chachamim, surtout quand c'est un Kohen. More halacha lifnei rabo. Il a décidé de la halacha en présence de son maître. Moïse était présent et il fait comme lui pense qu'il faut faire. Et ça, c'est une faute très grave. Être moré, halakha, lifne, rabou. On va lire ce que dit le Midrash. Et c'est pourquoi un père et son fils, un maître et son élève n'ont pas le droit de siéger dans le même tribunal rabbinique. Je ne sais pas si vous savez ça déjà. Je veux dire jusqu'où ça va, cela. Dans les temps où il y avait une politesse juive traditionnelle très, très précise. Maintenant, tout ça, ça s'est un peu aplati. Vous avez remarqué, par exemple, à une bar mitzvah, il faut faire monter à la Torah le maximum de gens de la même famille. On évite de faire monter à la Torah deux frères de suite, ou un père et un fils de suite. Il faut mettre un étranger entre. Vous avez peut-être remarqué ça. Ouais, ça va dans le même sens. Et alors, on va voir ça aussi dans le livre. Et puis, une autre thèse, c'est qu'on apprend par le texte qu'ils étaient célibataires. Et alors là, ça va très loin. Ils avaient fait vœu de célibat. Je ne sais pas si le commentaire dit de chasteté, mais en tout cas, ça doit être de chasteté, mais de célibat. Ça me revenait en arabe, et je vais le traduire en patouette. C'est comme la Torah l'a dit, et pour qui tu te prends? Parce que vous comprenez l'idée. Parce qu'au moment de la révélation de la Torah, Dieu a demandé qu'on se sépare en met fin pendant 3 jours pour se préparer à la révélation de la Torah. Alors eux considéraient qu'ils étaient tout entiers Torah, alors à plus forte raison, il faut être célibataire. Je fais allusion à aucune prêtrise d'un autre culte. Okay? Alors, et la réaction du Midrash est très dure. Il dit, pour qui tu te prends? Okay? Et puis, il y a encore une autre thèse, on va la lire. C'est qu'ils étaient impatients de remplacer Moïse et Aaron. Alors là, c'est mai 68, dans la paracha de Shmini. Vous avez compris un peu l'idée. Alors, on va commencer à lire ces Midrashim. Avant les Midrashim, est-ce que quelqu'un a une question sur ce qu'on vient de voir? Et je lirai les Midrashim et on passera à un deuxième sujet. Vous aviez une question tout à l'heure?
Dans notre cadre, on parlait de l'astrologie. Dans la prière du Talmud, je me laisserai. Il y a tous les signes astrologiques, non?
Dans l'Ita Ashkenaz.
Ashkenaz?
Oui, nous n'avons pas ça dans l'Ita Sfarad, mais je connais le texte. Oui, effectivement, et pas seulement dans la prière du Tal, vous avez dans les offices des jeunes, à Tisha B'Av, à Shemar Asar et Tammuz, le 10 Tébet, la relation, autant de quel signe du zodiaque dans l'année ça se passe. Mazal Talé, Mazal Yahari, Mazal. Je veux dire, il y a eu un des premiers, vous savez, il y a eu énormément de journaux francophones en Israël en 40 ans. Je ne me rappelle plus comment s'appelait celui auquel je fais allusion, mais il y a longtemps. Bon, un des journaux francophones en Israël, pas du tout de la classe de Jérusalem Post, à qui en français, il faut souhaiter longue vie. C'est un de ces journaux francophones en Israël qui a la meilleure tenue, un peu comme Information Juive en France. Je n'ai pas parlé des autres. Hein. C'est rare. Il est disparu.
Oui.
Non, mais je ne parle pas des défunts. Oui, c'était une revue de pensée, ce n'était pas un journal. Et alors, à quoi je pensais? Pourquoi je vous ai parlé de ça? Ah oui. Alors un jour, le rédacteur en chef, quelques années après Maralia, me demande très sérieusement de faire une rubrique dans son journal. J'ai dit, je veux bien, mais à une condition, supprimer la rubrique astrologique. Alors il m'a dit, mais si je supprime la rubrique astrologique, le journal ne se vendra pas. Vous n'avez aucune idée.